bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau plateau d'experts. Nous allons parler remote production. Alors, la remote production, évidemment, existe concrètement depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un sujet récurrent au sein du SATIS. Néanmoins, c'est souvent un sujet qui est abordé par le prisme des, on va dire, grandes productions, des productions pour lesquelles il y a déjà des budgets assez conséquents. Et on va voir aujourd'hui que, eh bien, cette, grâce à l'évolution des technologies et notamment de la connectivité, la remote est aussi accessible pour le plus grand nombre, en tout cas pour un maximum de production audiovisuelle, que ce soit en réalisation complètement à distance ou en partie, on en parlera également. Et nous allons donc parler à travers l'expérience de prestataires, mais aussi de gens qui distribuent ou qui fabriquent du matériel, pour voir où on en est sur ces productions, on va dire, qui sont sur des coûts raisonnés, donc qui peuvent intéresser une grande partie du marché, y compris corporate, on le verra, où on en est des solutions disponibles sur le marché ou de celles qui vont arriver prochainement sur cette thématique, donc de la remote production pour tous. Alors, nous avons le plaisir de recevoir pour cet échange Philippe Rouault de la société Kino. Bonjour Philippe. Nous avons Guillaume Brûlé de Multicam Group, et non pas Multicam System, on en reparlera tout à l'heure. Nous avons également, alors il y a eu des petits changements de place, il ne faut pas que je me trompe, hein, Pierre-Laurent Jaskrebski de la société 3D Storm. À ses côtés, Jonathan Biche de Letzi, hein, filiale d'AMP Visual TV. Et puis on ne le présente plus évidemment, Norbert Paquet de chez Sony. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre appel et merci d'être venus malgré les grèves. Alors pour rappel, hein, nous allons aborder le sujet, comme je le disais tout à l'heure, du côté économique. La remote pour tous, ça veut dire que budgétairement, il y a des solutions pour tout type de production, mais on verra aussi plus tard qu'on va aborder ce sujet par rapport aussi à la flexibilité. Je vais me déplacer un peu, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de l'Arsen. Par rapport à la flexibilité des moyens, ça veut dire la remote pour tous, ça veut dire aussi, même si on a peut-être des budgets plus conséquents, une remote qui s'improvise plus facilement. On abordera aussi ces sujets. Alors je vais commencer avec vous, Philippe Rouault, de la société Kino. Déjà peut-être en quelques phrases, nous présenter Kino.
Merci Fabrice de nous avoir invités déjà. Donc Kino, on est une société de production audiovisuelle. On travaille en tant qu'agence pour des clients divers et variés dans le monde institutionnel, avec des petites entreprises, des grosses entreprises, des gens qui font aussi des forums internationaux. Notamment, on en a réalisé quelques-uns sur l'environnement ou sur les thèmes du développement durable ces derniers temps. Et Covid aidant, la demande de remote a complètement explosé ces dernières années. C'est vrai que les demandes timides chez les clients sont devenues des demandes formelles et il a fallu s'adapter. Donc nous, on n'est pas du tout des fabricants de matériel, on n'est pas du tout des revendeurs de matériel, on n'a pas de solution préfabriquée. Mais on est plutôt agrégateur et on essaye de picorer grâce à tous ces partenaires et puis et d'autres des solutions pour essayer de mettre en place de la remote, du live, des choses à distance et on pourra regarder, ça recouvre des réalités complètement différentes.
Alors on va parler notamment corporate hein, aujourd'hui dans les exemples que vous nous avez, que vous allez nous proposer. Évidemment le corporate utilise majoritairement le live et le streaming pour ses communications, c'est devenu un outil presque de base d'utilisation. Voilà, on va commencer par parler de ce secteur, vous avez quelques exemples à nous montrer, on ira un peu dans le détail technique ensuite.
Oui, alors on peut voir quelques images. Alors forcément, on ne peut pas tout voir parce que c'est vrai que dans le corporate, il y a pas mal d'images qui sont limitées à une audience interne. Donc on ne peut pas forcément vous les montrer parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Voici quelques exemples de ce qu'on peut réaliser. Donc des conférences avec des intervenants à distance, avec toutes les solutions de mise en ligne à distance, d'interactivité à distance, des solutions d'intervention à distance sur des plateaux type plateau fond vert avec des intervenants. Là, c'est par exemple pour Suzuki. Ils ont fait une convention à Deauville et on avait en live, en remote, leur directeur commercial qui faisait qui présentait la nouvelle voiture qui venait de sortir et qui était complètement confidentielle. Et puis, des solutions, comme on le voit ici, qu'on a mises en place pour des sociétés comme Oracle ou pour Caterpillar, avec des gens qui sont en fond vert à Paris, des gens qui sont en fond vert à Barcelone ou en Afrique du Sud. Et on réunit ces personnes-là sur le même plateau via des solutions mixtes en réalité. Là, en l'occurrence, c'était du VMix et du Zoom. Et on arrive à les filmer, les mettre sur le même plateau et on a l'impression qu'ils sont sur le même plateau virtuel.
Oui, donc, parce que là, je vous coupe rapidement, mais on est vraiment sur une hybridation. On n'est pas dans le concept de la remote où on a juste une réalisation qui se fait à distance. Là, on est sur une hybridation où on a des gens à distance, une réalisation qui peut l'être aussi. Enfin, on est sur un mélange des genres finalement.
On est souvent incorporé sur un mélange des genres pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on travaille pour des gens qui ont des sites à différents endroits. Donc c'est vrai que souvent on a un site principal et puis des gens qui ont besoin d'intervenir à des endroits différents. Et puis on a des problématiques tout simplement de coûts. C'est-à-dire qu'on est sur des petits événements, qui sont souvent uniques, qui ne sont pas forcément reproductibles. Contrairement à du sport, où finalement, quand vous faites quand vous suivez du sport, vous allez mettre en place sur quasiment chaque match un dispositif à peu près équivalent. Après, vous allez l'adapter en fonction. Vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que sur du corporate, c'est chaque fois un peu du sur-mesure. Donc, on est obligé de s'adapter aux conditions et puis aussi obligé de s'adapter aux techniques qui sont possibles chez le client. Car on a des gros soucis d'intervention quand on va travailler pour une banque, quand on va travailler pour une multinationale, de mettre en place des technologies qui vont passer ces firewalls, qui vont être compatibles avec la direction des systèmes d'information. Et ça, il va falloir chaque fois se dire, tant pis, on ne peut pas tout mettre en place, on va être obligé, s'ils sont sur Teams ou sur Zoom, par exemple, de passer, ou sur des systèmes beaucoup plus fermés, de prendre leur système fermé, parfois de les pirater un petit peu, de faire des boucles à partir de leur système fermé, pour pouvoir les réintroduire dans notre live, et donc pouvoir faire des solutions hybrides comme ça.
Aujourd'hui, les outils que vous utilisez, c'est quel type d'outils ?
Alors, ça dépend, mais pour nous, on travaille principalement avec la solution VMix, hybridée avec des solutions Zoom ou Teams, principalement. Et puis, ensuite, pour le studio son, par exemple, puisque ça, c'est aussi une demande, on travaille avec des choses du type Session Link qui nous permettent de pouvoir enregistrer à distance, mais toujours avec des solutions hybrides. Là, on vient de faire une publicité pour le chanteur Renaud, où on travaillait avec des partenaires, des ayants droit de Renaud. On travaillait avec des gens de Warner, on travaillait avec des gens d'Universal et puis la société Hachette. Donc là, c'est une pub qui passe en ce moment à la télévision. Et sur cette pub, il fallait enregistrer. Donc c'était Valentin qui est là, notre ingénieur du son, qui pilotait ça avec des systèmes Session Link et puis des systèmes de Zoom et de caméras interactives pour que chacun puisse en même temps voir le comédien, savoir ce qu'il était en train d'enregistrer, intervenir, consulter ses problèmes de droit. Donc en fait, il y a tout un mix. C'est pour ça aussi que je voulais que dans les dernières images qu'on voit là, on voit notre équipe qui est une équipe de community manager qui va aussi travailler là-dessus. Parce que finalement, il y a toute la partie remote direct, mais il y a aussi dans une autre salle déportée des gens qui vont travailler et qui vont récupérer tous les petits bouts qui servent au live à distance ou sur place et les mettre sur les réseaux sociaux. Et donc c'est toute cette architecture d'hybridation qui est un peu notre métier d'agence en fait.
Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez sur la partie audio, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, on entend souvent la remote production en pensant vidéo. Néanmoins, vous m'expliquez, vous avez d'ailleurs un studio de mixage chez Kino, il y a de plus en plus de choses qui aussi au niveau audio se font vraiment en remote.
Oui, parce que on a besoin. Les clients ne veulent plus se déplacer pour des raisons tout simplement de temps. Ils sont en télétravail, de RSE tout simplement. Ils n'ont pas envie de prendre le train ou l'avion pour venir à une session d'une heure, ou même de traverser Paris pour une session d'une heure de temps en temps. Donc, on a besoin pour des sessions audio de travailler à distance depuis notre studio avec des clients qui sont ailleurs, mais aussi avec des comédiens qui sont ailleurs, puisque l'activité étant de plus internationale, on a besoin de faire intervenir des comédiens japonais, coréens, de langue arabe. Et il n'est pas facile forcément d'en trouver à Paris. C'est-à-dire qu'un traducteur, on va en trouver un à Paris. En revanche, une vraie voix de pub en arabe littéraire ou en japonais, ça va être plus compliqué d'en trouver une à Paris. Et donc là, ça va nous ouvrir le champ des possibles pour trouver des comédiens ailleurs, quoi.
Et on reparlera tout à l'heure tous ensemble des limites, des problèmes qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui en remote. Aujourd'hui, c'est quoi la difficulté? Évidemment. C'est la connexion, c'est la connectivité tout simplement?
Alors, principalement en institutionnel, en corporate, c'est la connexion, puisqu'on est lié à la connexion de nos clients. Donc, on peut mettre en place des systèmes, mais comme à chaque fois, on est sur des événements quasiment uniques et qu'on est sur des coûts raisonnés, on va avoir des coûts de connexion qui vont être quasiment parfois équivalents au coût de la mise en place globale de l'événement. Donc là, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Et en même temps, c'est le piège, parce que sur un événement remote, si la connexion ne marche pas, ben, l'événement n'existe plus, tout simplement.
On reparlera un petit peu plus précisément tout à l'heure des systèmes qui existent à des prix abordables. On va passer la parole à Guillaume Brûlé. Bonjour Guillaume. Donc j'allais vous présenter comme Multicam System, parce que c'est comme ça qu'on vous présente habituellement. Et je vois sur votre t-shirt Multicam Group.
Je comprends l'interrogation. Déjà, merci de m'avoir invité. Le SESATIS, en fait, est l'occasion pour nous, effectivement, de communiquer un peu plus clairement sur les diverses entités de Multicam. Multicam System, finalement, c'est une marque. C'est-à-dire, c'est toute la partie développement de chez Multicam que vous allez retrouver dans l'autre bâtiment, tout juste à l'entrée. Et c'est effectivement tous les robots que vous allez retrouver sur le stand Canon, PRG, etc. Moi, je fais partie de la marque Multicam Live que je dirige et on fait vraiment de la prestation de service. Pour clarifier ça un peu dans la tête de tout le monde, on a décidé de communiquer sur Multicam Group.
Alors, Multicam Live, du coup, concrètement, vous êtes vraiment sur un marché assez large, hein, d'ailleurs, parce qu'on vous voit pas mal présent, hein, sur différentes conférences. Mais le cœur de votre marché, est-ce que c'est celui dont on parle là, c'est-à-dire celui pour lequel il n'y a pas des budgets considérables et pour lequel il faut trouver des solutions en permanence pour rentrer dans le budget des clients?
Alors vous avez tout à fait raison et je pense que ce serait intéressant qu'on lance la vidéo que je vous ai fournie et comme ça on va pouvoir rebondir dessus.
Eh bien on la voit la vidéo justement.
Donc en fait, nous on est plus effectivement dans le cadre de la remote prod sur un domaine sportif. Ça fait quelques années qu'on fait de la remote prod, plus à des fins de R&D à la base. Mais il y a un an, on a un diffuseur qui a remporté l'intégralité du championnat de D1 Futsal. Donc c'est 22 journées avec 5 matchs par journée, donc un peu plus d'une centaine de matchs par an. Et qui est venu nous voir avec une enveloppe et qui nous a dit, voilà, avec cette enveloppe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, la remote prod était la seule réponse possible à cette enveloppe et ses contraintes budgétaires. Comment est-ce qu'on a décidé de répondre à ce défi? En fait, il y a deux choses. On a créé, industrialisé des valises qui vont intégrer des moyens de captation et des moyens de transmission du signal jusqu'à une régie finale qu'on a du coup effectivement intégrée dans nos locaux. Et ces moyens de captation, ces valises, on les balade dans la France. Donc je vais avoir des clubs à Nantes, des clubs à Toulouse, des clubs à Toulon. Et on va balader ces valises qu'on va adresser à des auto-entrepreneurs, pas forcément équipés effectivement en région, et qui vont opérer la captation monocaméra à partir de la caméra qui est dans le dispositif. Ce signal, il va revenir et remonter en direct dans notre régie finale. Et dans notre régie finale, on va avoir une équipe de deux personnes composée d'un technicien qui va s'occuper de toute la partie charte graphique, le score clock, les panneaux, tout ce qu'on connaît bien par rapport à une diffusion sport, et un journaliste qui va le commenter. Quel est l'intérêt? C'est qu'en fait, le même couple de techniciens et de journalistes peut à 16h s'occuper du match à Nantes et à 18h30 du match de Toulon. L'autre intérêt, c'est qu'on ne déplace pas d'équipe avec tous les frais inhérents à la logistique. On les connaît et vous vous en doutez forcément. Par rapport à ça, il y a effectivement plusieurs contraintes. C'est que déjà, dans le domaine du sport, le taux d'équipement n'est pas très bon. Et donc, du coup, on a les 80% des salles qui ne sont pas équipées en connectivité. Donc nous, on va se baser sur de la 4G et désormais même aussi et de plus en plus de la 5G, ce qui nous a quand même un petit peu soulagé, il faut le dire, pour remonter le signal. Il y a une autre difficulté, c'est que des fois, on est dans des creux 4G et qu'on n'a pas de bonne connexion. Et dans ces cas-là, on a décidé, nous, de s'appuyer sur un nouveau codec qui n'a pas encore effectivement été généralisé, c'est le H.265. Le H.265 qui permet à débit égal d'un H.264 d'avoir deux fois plus de qualité. C'est à peu près ça en vulgarisant. Mais par exemple, si vous faites 2 mégabits de H.264, 1 mégabit de H.265, vous avez la même qualité. Ça paraît un petit peu comme ça barbare quand on ne connaît pas forcément les contraintes réseau. Mais quand vous êtes sur de la 4G dans des creux de réseau, le moindre mégabit est extrêmement important. La deuxième chose sur laquelle on s'est appuyé, c'est les problèmes de latence qu'on peut avoir quand on remonte un flux depuis un lieu de captation. On connaît tous, je pense, ici le RTMP, qui est le protocole standard du streaming live historique. Mais nous, le problème, c'est qu'on a aussi des fois des contraintes où il faut mixer plusieurs sources. Pour que celles-ci soient synchronisées, on a décidé de se baser sur le protocole SRT. Et donc, du coup, aujourd'hui, on remonte des flux SRT qui encapsulent du H.265 et ça nous permet ce que je vous ai décrit un peu plus tôt. Voilà.
Je voudrais qu'on vienne un peu sur cette mallette qui se déplace, hein, donc qui est envoyée, si j'ai bien compris, à des prestataires locaux, enfin en tout cas des gens qui vont gérer le matériel localement. Ça peut être des clubs directement, j'imagine aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette, enfin les grandes lignes, hein, parce que je crois comprendre, si on voit les images, il y a deux caméras, c'est ça, pour filmer un match de foot à 5?
Tout à fait. En fait, le futsal, ce n'est pas le sport le plus simple à capter en remote. Parce que le football, en fait, quand l'arbitre siffle, ça y est, le chrono, il déroule et il ne s'arrête pas. Donc ça, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on fait un play et puis on n'a plus à intervenir dessus. La difficulté du futsal, elle est la même sur le basket, elle est la même sur le handball, c'est qu'on a un chrono qui s'arrête et qui se relance en fonction des arrêts de jeu. Et ça, c'est impossible de le faire à la main. La solution historique que tous les prestataires font, c'est qu'en général, ils se synchronisent avec une table de marque. Or, on est sur un championnat amateur et il n'y a pas d'homogénéité de ce côté-là. Donc le développement n'était pas possible ou trop complexe, trop lourd. Et par ailleurs, on adresse la valise à des cadreurs et pas des techniciens. Donc on ne peut pas non plus leur demander d'intervenir sur trop de pans techniques sur place. Du coup, la solution qu'on a adoptée, c'est qu'on a développé une solution d'analyse d'image où en fait une des deux caméras, donc la première caméra est opérée par le cadreur, vous l'avez compris, et la deuxième caméra va faire de l'analyse d'image. Elle va filmer le panneau de score, elle va donc ce signal va remonter en direct chez nous et on va le réinterpréter afin de pouvoir le mettre dans le score clock. Et ça nous permet d'être parfaitement synchronisé avec le chrono, ce qui est également aussi un défi, notamment sur cette discipline.
Donc sur le terrain, si j'ai bien compris, c'est une seule personne. C'est une personne qui va cadrer, qui va installer, avec qui vous êtes en contact directement, qui est en contact avec la régie?
Tout à fait. Donc en fait, nous, on se base sur des solutions qu'on connaît tous. Hein. On va lui parler via un Discord. Et cette personne, c'est intéressant de le souligner, cette personne, ce n'est pas un technicien. C'est un cadreur. Et donc, du coup, nous, on a essayé plusieurs choses. Au début, on avait essayé des solutions hardware, donc des solutions physiques. Mais le problème, c'est que dès qu'il fallait intervenir dessus, c'était complexe. On pouvait pas en demander trop au cadreur. Donc, on a vraiment fait le choix de passer sur une solution software. Nous, la force qu'on a chez Multicam, c'est qu'on peut développer des logiciels. Donc, on a développé un petit logiciel qui permet d'être multisession sur le même ordinateur. Donc, on peut acquérir plusieurs signaux sur la même station et les encoder et les remonter en direct chez nous.
Voilà. Alors, ça veut dire que concrètement, les matchs, non, il y a plusieurs matchs dans une même journée, j'imagine, mais les matchs ne se disputent pas en même temps. Si vous voulez réussir à les diffuser de manière intelligente et économiquement viable.
Tout à fait. Et là, c'est tout l'enjeu du diffuseur, pour le coup, qui lui dispose d'une enveloppe et qui doit donc faire de la pédagogie auprès des clubs pour toute une gestion de créneaux. Nous, on s'est engagé dans le cadre de cette enveloppe à deux matchs en simultané. Donc, on dispose de deux cabines dans lesquelles les journalistes peuvent enregistrer leurs commentaires et de deux stations qui permettent de faire tout le traitement que vous voyez depuis tout à l'heure dans la vidéo.
pour le diffuseur, on parle d'une plateforme web, j'imagine. On n'est pas sur un diffuseur télé.
Exactement. Là, les enjeux, ils sont entièrement digitaux. Donc, c'est une plateforme donc, qui s'appelle Futsal Zone. Et pour pouvoir voir du futsal, il faut payer un abonnement de quelques euros par mois. Et ça se développe énormément. Et effectivement, les solutions remote sont une réponse à ces contraintes budgétaires purement digitales.
On va passer la parole, on vous passera la parole après, hein, Pierre-Laurent, même si vous êtes... on va passer le micro par au-dessus de vous, mais on ne vous oublie pas. Hein. Jonathan Biche, de la société Letty, hein, donc je disais filiale d'AMP Visual TV.
Je vais juste corriger, je suis AMP Visual TV.
D'accord.
On t'a menti.
On m'a menti, donc j'ai une grosse bêtise, mais quand même...
Non. Donc je suis responsable technique AMP Visual TV, et on a plusieurs marques, dont Letty, avec qui j'ai énormément travaillé en transverse... ces trois dernières années.
Alors justement, Letty, à l'origine de la création de cette société, j'espère que je ne vais pas dire une autre bêtise, hein, mais l'idée c'était d'aller s'adresser à des budgets peut-être moins importants que ceux que les clients habituels d'AMP Visual TV.
Alors personnellement, ça a commencé vraiment au début du confinement, hein, trouver des solutions surtout rapides à mettre en place. Chez des animateurs, présentateurs, et ainsi faire une émission avec des moyens de connexion qu'on ne connaissait pas trop, qu'on n'osait pas utiliser dans le broadcast avant. Donc, on s'est lancé là-dedans.
On a quelques exemples.
Voilà, donc ça, c'est vraiment l'exemple qui a tout lancé chez nous, entre guillemets. L'émission Tous en cuisine, hein, avec Cyril Lignac. Pour ceux qui l'ont vu, donc on a installé quelques caméras, micro, retour vidéo chez Cyril lui-même, qui avait une connexion internet. Donc la première question, c'était la connectivité, hein, comme on en a parlé avant, qui est le principal sujet pour nous dans le broadcast pour transmettre toutes ces images. Et donc en deux jours il a fallu mettre en ligne une émission de télé pour aussi occuper les gens qui étaient chez eux, qui ne pouvaient pas sortir. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler nous pendant le confinement, et ça nous a permis d'évoluer à vitesse grand V pour ces technologies là où on avait un peu peur de se lancer. Pour entrer un peu plus dans le détail de cette émission, c'est donc ça a été des caméras remote, hein, des PTZ, qu'on pouvait prendre, on pouvait prendre la main à distance en IP, transmettre donc la vidéo. On en a parlé avant avec des codecs H.264, H.265 selon la vitesse de la connexion disponible. On a utilisé du VMix pour certaines applications dans l'émission, comme on voit les personnes à distance, hein, avec le VMix Call, le Skype, le Zoom. Donc tout ça, qu'on récupérait à notre Media Center, donc Letty, basé à la Plaine Saint-Denis, à côté des docks, là, que vous pouvez visiter pendant cette journée si vous le souhaitez. On récupère donc tous ces signaux dans notre centre, dans notre Media Center à Paris, et on le redispatche dans notre boucle sur nos différents plateaux ou car régie qu'on peut stationner, je dirais, là où on a des points de connectivité sur Paris. Cette émission, on l'a fait au tout début dans une régie classique qu'on avait sur nos plateaux à plateau de rive gauche, dans lequel on tournait n'importe quel type d'émission broadcast. On a déconnecté cette régie du plateau et on est venu récupérer les signaux de notre Media Center pour les mélanger dans notre régie broadcast.
Donc là, voilà un peu l'idée de... On est un peu sur ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur la remote pour tous au sens petit budget, même si ce n'est pas forcément des gros budgets ces émissions, mais on est quand même sur des émissions diffusées en télé. Mais on est là sur la remote, sur la flexibilité, la remote pour tous, au sens où on peut aller aujourd'hui tourner n'importe où et plus uniquement rester en plateau.
C'est ça, on le voit pas dans cet extrait, mais Cyril co-animait l'émission avec Jérôme Anthony, qui était chez lui à Nancy. Donc là, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une qualité vidéo de type Skype ou Zoom. Donc on a pris la décision d'envoyer des TVU, pour ne pas citer la marque, donc qui sont des encodeurs 4G, 5G. Il avait une très faible réception 4G chez lui, donc il fallait trouver les bons codecs pour pouvoir transmettre. Mais du coup, on a cherché justement cette flexibilité entre le pour tous, d'avoir bon, là, les soignants qu'on avait à distance, et pouvoir communiquer avec n'importe quel type de personne dans le monde entier. Une qualité un peu supérieure pour Jérôme Anthony, qui était chez lui dans la première saison, et tout ça mélangé dans notre régie broadcast sur Paris. Donc si on n'avait pas eu ces possibilités de transmission, on aurait été obligé de mettre de la station satellite, comme on le connaît classiquement, pour faire les duplex. Et là, le coût n'était pas le même.
Alors, le Covid a accéléré le processus, on en a déjà parlé. Mais est-ce que du coup, ça a engendré d'autres formes d'écriture au niveau des émissions ? Est-ce que chez AMP Visual TV ou Letzi, peut-être en particulier, vous avez des demandes aujourd'hui de programmes qui, pour le coup, ne se seraient pas faits par le passé, pour les raisons qu'on vient de dire, parce que ça aurait nécessité satellite et des coûts onéreux. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, y a une accessibilité plus aisée et moins coûteuse pour certains types de programmes diffusés en télé ?
Oui, forcément. Donc chaque producteur a ses demandes. Hein. Je pense que avant confinement, tout le monde avait la même idée du programme qu'il allait faire, un plateau, une régie. Et si on partait à l'étranger, bah, il fallait prendre les moyens à l'étranger qui étaient disponibles dans les moyens broadcast. Aujourd'hui, on sait aller tourner une émission à l'étranger avec des moyens légers. Donc je pense que tu fais référence à l'Iron Man.
Non, mais on peut en parler.
Voilà. Bon, c'est une prestation donc qui est réalisée, c'est une course qui est faite dans plusieurs villes dans le monde.
Un triathlon, exactement.
Un triathlon.
Natation, vélo.
Et du coup, qui est capté toujours par ce même mode de transmission 4G, hein, et qui nous permet de suivre un peu partout, du coup, les participants, et qui est réalisé sur Paris. Je pense qu'avant ce type de course, il aurait fallu déployer des moyens lourds, HF, hélicoptères, relais de transmission, avions. Et oui, on est aujourd'hui très à l'écoute des clients qui sont demandeurs de nouvelles solutions. Aujourd'hui, dans notre position, on ne peut pas dire non. Hein, il faut qu'on trouve la solution. C'est vraiment un challenge qui est permanent aujourd'hui, contrairement à l'avant-Covid.
Et pour en finir sur l'exemple de l'Ironman, puisque c'est celui que tu prenais, il faut savoir que ce sont des courses qui durent toute une journée. C'est pas une course de 2 heures, ça peut être 12 heures, enfin, souvent c'est 11 heures, voire plus. Du coup, sans ces technologies et sans l'utilisation de la 4G, ce serait impossible tout simplement de diffuser l'intégralité de ces programmes.
Oui, je pense que le coût du satellite sur 12 heures exploserait, oui, les budgets. Mais pour terminer, c'est vrai que la remote pour tous, je pense qu'on a permis à plein de gens d'utiliser l'audiovisuel aussi qu'on n'aurait pas utilisé en tant que peut-être particulier, les gens qui cuisinent avec Cyril depuis chez eux. Ça a fait une explosion chez les gens, je pense, de pouvoir rentrer dans cette télé.
Alors on a vu, on a entendu des exemples très concrets. On va passer la parole à des gens qui mettent à disposition du matériel. On va passer la parole, oui, à Norbert Paquet de chez Sony. Donc, Norbert, aujourd'hui chez Sony, quand vous concevez une caméra ou tout autre matériel, évidemment, on la pense en termes d'utilisation en remote production, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, une autre conférence sur des remotes un peu plus fortunés, mais y compris quand on est sur ce type de projet avec un peu moins de moyens.
Oui, tout à fait. merci de nous inviter aussi sur cette conférence. Alors Sony, moi je m'occupe sur la partie broadcast, mais on a aussi des entités sur la partie corporate education, comme ça je vais pouvoir couvrir un petit peu tous les cas d'usage. Donc nous, en termes de fournisseurs de solutions technologiques, on doit un petit peu couvrir tous ces aspects qui vont, dans le confinement, il y avait la problématique éducationnelle, où il fallait fournir des cours à distance, donc on a beaucoup de solutions qui permettent de faire du lecture capture, de faire des conférences jusqu'au broadcast. Donc il y a deux éléments quand on regarde les cas d'usage qui ont été présentés, il y a les coûts techniques et les coûts opérationnels. Et c'est là où la Remote pour tous doit pouvoir répondre à ces deux problématiques. C'est-à-dire que si on a une réponse technique qui est abordable, mais que derrière le coût d'exploitation vient exploser, l'équation ne fonctionne pas. Donc il faut bien regarder sur ces deux aspects-là. Donc nous, en tant que constructeurs, on doit fournir des solutions qui peuvent répondre à ces deux aspects. Sur la partie connectivité qui a été évoquée, c'est ce qui permet aujourd'hui la remote pour tous, c'est vraiment la pierre angulaire. Donc pour ça, j'ai entendu parler beaucoup de codec, mais au-delà du codec, il y a le transport du signal, une fois encodé, principalement sur des réseaux publics. Et donc comment on assure une qualité de service sur les réseaux publics? Aujourd'hui, quand vous téléchargez ou quand vous consultez en streaming, ça charge un petit peu, ça précharge et ça attend. Le live, il n'y a pas le temps de précharger et d'attendre. Toutes les DAC caméras doivent arriver en même temps, de préférence de manière assez synchronisée. Et on parlait d'audio tout à l'heure. L'audio est encore plus critique. Si on commence à avoir un décalage entre l'image et le son, là, on s'arrache la tête et c'est plus très intéressant pour l'audience. Donc pour ça, il y a des protocoles qui existent. On va parler de NDI tout à l'heure, qui est originellement plutôt développé pour les réseaux locaux, qui maintenant évolue pour les réseaux à longue distance et sur les réseaux publics, le SRT principalement, où on vient introduire de la qualité de service. Maintenant, la qualité de service, il faut bien la doser, parce que plus on renvoie éventuellement des informations qui sont perdues, plus on introduit de latence, puisqu'on doit y mettre des buffers. Donc nous, on travaille un petit peu sur la partie codec H.264, H.265, sur l'encapsulation dans un mode de transport qui va être sécurisé et fiable pour aller sur des réseaux publics, pour garder les coûts. On parlait du SAC tout à l'heure, une liaison satellite dédiée ou même une bande passante symétrique en fibre, aujourd'hui c'est assez cher. Donc il faut pouvoir aller sur une connexion ADSL, sur une connexion 4G. La 5G arrive et va amener pas mal de solutions. Maintenant, il restera la problématique de couverture. C'est la technologie.
On va parler de la 5G justement, parce que j'aimerais bien avoir les avis de chacun.
Il va falloir courir. Donc nous, ce qu'il faut s'attarder pour revenir un petit peu à notre rôle de fournisseur, c'est d'intégrer la connectivité, l'encodage et le mode de transport dans les caméras. Que ce soit des caméras robotisées, parce que les caméras robotisées amènent également une facilité en termes d'exploitation. Je reviens toujours sur ce duo technique-exploitation pour pouvoir opérer plusieurs caméras à distance par un seul opérateur, et ensuite des caméscopes plus classiques qui intègrent aujourd'hui les encodeurs. Donc ça, c'est la partie acquisition. Donc ça, globalement, aujourd'hui, on a aussi des téléphones qui servent de très bonnes caméras d'acquisition. Et donc, on peut regrouper tout ça, et on aura des solutions type VMix. Je pense qu'on va parler de NewTek TriCaster juste après, de Multicam. Voilà, il y a beaucoup de solutions. Nous, ce sur quoi on travaille, sur la partie comment aider les équipes de production, c'est les solutions clés en main. Et on n'a pas parlé encore du cloud. Donc c'est ça que je voulais un petit peu amener aujourd'hui, c'est qu'on travaille aussi sur des solutions clés en main qui permettent aussi de répondre à la problématique événementielle du live. Pas besoin d'infrastructure, pas besoin d'équipe de développement, pas besoin d'équipe de déploiement, pas besoin de maintenance, etc. On vient aller chercher dans le cloud un outil de production tout en un qui va pouvoir connecter les différentes sources audio, vidéo et qui d'un côté exploitation va pouvoir agréger où que se situe l'ensemble des exploitants, que ce soit un commentateur, que ce soit un opérateur de réalisation, et directement, parce qu'on est surtout sur des objectifs digitaux, directement streamés sur les plateformes, où aujourd'hui, il y a cette demande de croissance. Le Covid a été un accélérateur de confiance, je le prends plus comme ça, la demande était déjà là, le digital est partout, et c'est ça qui est génial. Donc des solutions cloud, et nous on a un service qu'on appelle M2Live chez nous, qui va être lancé en février, qui permettra directement d'avoir un système de production 100% dans le cloud. Donc, on vient le déployer au moment où on a besoin, et dès qu'on a fini, on n'a plus besoin. Donc on a besoin, dans sa perspective, de couvrir un événement, 10 événements, 100 événements, c'est juste un nombre de ressources qu'on vient déployer de manière temporaire dans le cloud, et l'avantage d'un point de vue économique pour la remote pour tous, c'est qu'on ne paye que ce qu'on utilise. Donc c'est vraiment les deux axes de développement aujourd'hui sur lesquels on essaie de travailler, d'offrir des solutions qui permettent de rendre justement la création de contenu pour les plateformes digitales beaucoup plus abordable en regard des contraintes techniques, opérationnelles et au final de budget.
Donc sorti en février, hein, c'est ça votre solution. On en saura quand, un peu plus en février, pas avant.
Il y a déjà des informations disponibles sur le site web de Sony, vous pouvez aller regarder M2Live. Ensuite, on commence les premiers tests bêta. Je vous invite avec grand plaisir à venir rejoindre la plateforme bêta. Mais le lancement grand public sera en février.
On va passer la parole à justement quelqu'un qui représente la société 3D Storm. Pierre Laurent, alors je rappelle, on a commencé à le dire, mais 3D Storm distribue notamment les solutions New Tech,
oui,
que vous mettez notamment en avant ici sur le Satis. Storm, et je crois que vous allez nous parler, je vais vous laisser le dire, mais Norbert a commencé à aborder le sujet de la NDI, et notamment le nouveau protocole. Mmh. Donc je pense que ça, vous allez tout nous dire, mais c'est un des nerfs de la guerre. Hein.
Oui, alors merci pour l'invitation Fabrice. Oui, bien sûr, alors, le NDI est un petit peu évidemment au cœur des solutions New Tech que tu viens d'introduire avec le TriCaster. Le TriCaster effectivement est un petit peu un outil donc sur base logicielle qui a permis finalement cette convergence vers l'IT très très rapidement. Et donc cette convergence facilite aujourd'hui les solutions proposées par NDI pour justement faire cette remote production. Alors, j'ai un dilemme aujourd'hui. Est-ce que je vous parle de ce que je rentre dans le détail du NDI pour vous expliquer un petit peu son histoire, ou est-ce que j'aborde peut-être son histoire qui est assez récente finalement, hein, ça va aller très vite, ou est-ce
on peut parler un petit peu on peut rentrer un peu dans le détail en étant
assez rapide,
et okay. Puis après aller dans les applications.
D'accord. Alors, puis ça permet effectivement de reposer un peu les bases qui peuvent être intéressantes à connaître.
Alors, je crois que vous allez nous présenter, tu vas nous présenter des slides. Je ne sais pas si on peut les voir sur l'écran qui
non,
est derrière.
Voilà, préfère garder cette présentation qui sera beaucoup plus interactive et beaucoup plus malléable. Donc déjà, le but du NDI, c'est un standard qui a été créé pour exploiter pleinement un réseau gigabit. Effectivement, dans un premier temps sur le LAN, et l'objectif du NDI pour New Tech était d'harmoniser les sources IT et vidéo. Donc déjà, il faut le savoir, avant l'arrivée du NDI en 2015, New Tech avait des petites applications qu'on appelait à l'époque IVGA pour les gens qui connaissent, et qui permettaient déjà de copier le bureau d'un Mac ou d'un PC et de le transmettre en IP directement comme une source au sein du TriCaster. Donc le NDI n'est que l'évolution naturelle finalement de cette idée première de New Tech. C'est quoi le NDI ? C'est une combinaison d'un codec et d'un protocole. Donc ça, c'est important de bien prendre cette notion. Le codec NDI, alors on va parler donc du NDI pleine bande passante, qu'on détaillera un peu plus tard, visuellement sans perte. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est important de considérer qu'il est indépendant de toutes les résolutions. Aujourd'hui, on gère de la résolution SD et il est possible avec du NDI de traiter jusqu'à de la 8K. On supporte l'alpha channel, donc pour des besoins d'habillage, ça va être très intéressant, et pourquoi pas imaginer des solutions en remote prod d'habillage avec le NDI. On va pouvoir donc du coup traiter des fréquences d'image de 1 à 250 images par seconde. Le temps de compression est très faible et le taux d'occupation d'un processeur est aussi très léger quand il s'agit du NDI pleine bande passante. On va pouvoir aussi transporter de l'audio, on peut gérer jusqu'à 16 canaux embedded. Évidemment, l'audio est synchrone avec la vidéo. On a aussi, alors j'extrapole un peu le NDI, mais on a aussi de la connectivité vers Dante et iOS 67. Et on va pouvoir, bien sûr, depuis la version 4 du NDI, intégrer des fonctionnalités de NDI KVM. Donc là, prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, d'un TriCaster, depuis un monitoring NDI. Je vous invite, si vous avez besoin de plus d'informations, à venir nous voir sur le stand 3D Storm. Parce que là, l'idée est de parcourir de manière générale les fonctionnalités. On peut aussi également enregistrer en NDI. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne nécessite pas de ressources. L'enregistrement NDI va aspirer simplement le flux et l'écrire sur le disque dur. On intègre un timecode qui peut être synchronisé par NTP, par exemple. Donc ça, c'est important aussi de le considérer dans tout ce qui est enregistrement divergé. Et si on rentre un peu plus au cœur du NDI, on peut apercevoir ici sur ce slide un petit peu les bandes passantes. Alors évidemment, on est un peu loin des considérations de remote prod, mais pourquoi pas, hein, si on a la liaison qui correspond, si on a le débit suffisant, on peut travailler en full NDI. Donc dans ces formats-là, on va parler de NDI pleine bande passante en français, et on voit que pour un signal HD en 1080p, on sera à peu près à 150 mégabits par flux. Cette notion de bande passante, c'est aussi un petit peu le point clé de toutes les réflexions qu'il faut mener autour du NDI et autour de tout, finalement, de toutes les transmissions sur IP. Hein, aujourd'hui, cette réflexion autour de la bande passante est vraiment majeure dans la construction d'un projet, à mon avis. Alors, on parle beaucoup aussi de NDI HX, et des constructeurs comme Sony l'ont implémenté, d'ailleurs, depuis longtemps, dans les caméras PTZ, par exemple. On a eu la version 1, aujourd'hui on est majoritairement en version 2. Ce qui change par rapport au NDI pleine bande passante, et c'est vraiment important de clarifier ce point-là, et c'est un élément clé à mon avis pour des éléments de remote prod, c'est que le NDI HX va permettre de diminuer la bande passante pour un signal HD, par exemple, on sera à peu près à 20 mégabits sur du HX2. Et aujourd'hui, NewTek a introduit la version 3 du NDI HX, où là, en fait pour vous expliquer un petit peu l'arrivée du NDI HX3, les inconvénients du HX2, c'est que, évidemment, on a cette compression qui est souvent opérée en H.264 grâce au hardware embarqué des caméras PTZ, par exemple. Ce codec H.264 ou H.265 hein, pour de la 4K introduit forcément une notion de latence, puisqu'on est sur un gob qui est plutôt long. Donc le décodage nécessite un peu de temps pour assembler les éléments et produire l'image. Et donc, ce process induit forcément de la latence. Donc, certains clients étaient peut-être un peu déçus, un peu contraints par cette latence, et NewTek a choisi de proposer le NDI HX3, qui, lui, utilise finalement le même principe de codage, donc du H.264 ou H.265 pour la 4K, avec un process iframe, ce qui permet de réduire nettement la latence et donc du coup de descendre à des bandes passantes pour un signal HD à peu près à 70 mégabits, ce qui est beaucoup plus facile à transporter sur des réseaux WAN par exemple. Ou alors, ce qui est très intéressant aussi dans le NDI HX3, c'est qu'on va pouvoir paramétrer la bande passante manuellement. Donc l'opérateur va pouvoir décider de configurer sa caméra et de définir lui-même manuellement sa bande passante, toujours en iframe. Voilà. Donc on va pouvoir découvrir cette fonctionnalité aussi sur la caméra PTZ3 de NewTek qui a été lancée l'été dernier. Alors le protocole NDI, pour en revenir un petit peu à la façon dont NDI travaille, on a une authentification automatique, ce qui permet sur un réseau local par exemple, vous déclenchez une source NDI, automatiquement un lecteur NDI de type TriCaster, VMix ou autre, va être capable de découvrir cette source automatiquement et de la sélectionner. Donc on a un vrai confort de travail. NewTek a introduit aussi sur la version 4 du NDI la notion de discovery server. Alors ça c'est majeur pour l'évolution du NDI, notamment pour des raisons aussi de remote prod, c'est qu'à travers le cloud ou les masques de sous-réseau, on va pouvoir faire communiquer différentes infrastructures NDI grâce à ce paramètre. En fait, on va lister l'ensemble des sources NDI sur un applicatif serveur et qui va apprendre à un autre masque de sous-réseau, par exemple, la liste des sources NDI. C'est un peu technique, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me voir un peu plus tard. Le principe, sinon en unicast du NDI, c'est qu'on ouvre qu'on va ouvrir simplement une liaison donc, d'une source vers un lecteur NDI. Cette source pourra être mutualisée, c'est aussi tout l'intérêt du NDI, et éventuellement reproduite vers d'autres monitoring ou lecteurs NDI. Ce qui est important de noter, c'est que le NDI est multipoint et bidirectionnel. Alors attention, on a cette notion de bande passante aussi qui est importante, c'est qu'à chaque fois que vous allez solliciter la source, forcément la bande passante va être utilisée et on va multiplier donc du coup en unicast cet envoi de bande passante vers chacune des destinations.
Et pardon, mais la notion de bidirectionnelle, elle est essentielle quand on parle de remote justement.
Absolument, puisque l'idée, alors il me semble avoir un slide juste après, on le verra plus tard. Elle est importante parce qu'effectivement, on va pouvoir piloter de la caméra PTZ, on va pouvoir avoir l'information du taulier, par exemple, on va pouvoir, dans certains cas aussi, déclencher donc le Toli, le PTZ et oui voilà c'est à peu près tout et l'Alpha Channel aussi qui est pas bidirectionnel. Du coup j'ai perdu le fil mais c'est pas grave. Juste pour vous rappeler un petit, on y reviendra tout à l'heure par rapport au bidirectionnel. Pour vous rappeler l'historique quand même, donc l'évolution NDI est assez impressionnante. On a démarré en 2015, je crois, simplement en TCP. Aujourd'hui, on est sur du RUDP et c'est la version 5 aujourd'hui qui permettra cette ouverture sur le WAN grâce à ce protocole RUDP. Il est à noter aussi que tous ces protocoles sont pris en charge aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une solution NDI, un TriCaster par exemple, va pouvoir traiter des sources TCP, des sources UDP ou des sources RUDP. Voilà, le workflow NDI, c'est le NDI dénominateur commun à toutes les sources et médias. Les flux sont accessibles en tout point du réseau. Et c'est aussi le point un petit peu majeur.
Et on est d'accord, le NDI, c'est quand même quelque chose de complètement ouvert.
Oui, alors c'est d'un point de vue logiciel, effectivement, c'est complètement ouvert. On peut déployer effectivement des outils NDI de manière totalement gratuite sur n'importe quelle solution Windows ou Mac. Hein, les deux. De plus, depuis l'arrivée de NDI 5, il faut noter que le NDI a été porté sur les plateformes de type ARM ou M1 de chez Apple. Donc on a aussi cette mobilité qui est intéressante avec le NDI. Linux aussi est capable de gérer du NDI. Donc toutes les solutions peuvent être déployées de manière logicielle, de manière ouverte sur n'importe quel type de plateforme. Les nouveautés de NDI 5, justement, permettre de mettre en avant donc du coup tout ce qui va être utile pour de la remote production, notamment avec l'arrivée. Oh, pardon. Alors je vais parler rapidement de audio direct parce que c'est peut-être pas forcément le sujet, mais ça peut être intéressant aussi dans certains contextes. L'application audio direct permettra en fait un lien à des logiciels de type de mixing, enfin de mixage audio, d'intégrer le NDI. Donc à la manière d'un plugin VST, en fait, le module va permettre d'interagir, enfin de transmettre en fait, de recevoir plutôt des sons venant de NDI et de transmettre des sons du logiciel de mixage vers NDI. Donc la passerelle vers les outils audio peut être, à mon sens, intéressante. Le plus intéressant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt donc la partie vidéo avec NDI 5 Remote. NDI 5 Remote, en fait, utilise le principe WebRTC et va permettre, grâce à un navigateur, n'importe quel type de navigateur, d'ailleurs, ça peut être sur votre téléphone, sur votre PC ou sur votre Mac, d'exploiter en fait une liaison NDI. Donc l'objectif, c'est qu'on va permettre l'envoi d'une invitation sous la forme d'un flash code. La personne va pouvoir scanner depuis son adresse, depuis son mail ou depuis un SMS, va pouvoir scanner le code et rentrer directement en liaison avec l'application NDI Remote qui va permettre de convertir ce flux vidéo directement en NDI. Voilà. On peut bien sûr aussi, pas simplement utiliser cette application en version web conférence, à la mode web conférence. On peut très bien imaginer récupérer une sortie de régie via une conversion SDI vers NDI et utiliser cette fonctionnalité pour transmettre un signal, pourquoi pas, d'un site A vers un site B. À noter qu'aujourd'hui, on a une notion de talkback. Donc on va permettre les échanges entre l'émetteur et le récepteur.
Oui, ça c'est essentiel. Voilà. Je voudrais qu'on, sauf si tu as encore des petites choses à nous dire brièvement sur le NDI.
Voilà, j'ai deux petits points majeurs quand même à vous dire. Ce sera assez rapide. On va pouvoir donc créer des liaisons bidirectionnelles aussi avec NDI 5 Remote, donc dans un contexte plutôt de duplex, où la régie va pouvoir aussi transmettre des éléments vidéo ou autres. On a une application majeure qui est Bridge, qui va permettre, elle, de créer des liaisons de workflow. Donc on a trois modes de fonctionnement pour Bridge. Le mode local va permettre de faire de la conversion de format NDI vers NDI HX, par exemple. On va pouvoir aussi permettre de la distribution d'un flux NDI au sein d'un réseau local, par exemple. Ce n'est pas tellement l'objet majeur de la discussion, mais le mode Bridge en version host ou join va permettre en fait de créer en fait des ponts NDI à travers le WAN entre différents workflows, studios, caméras, et donc du coup de gérer tout simplement des interconnexions multisites en NDI, en manageant un peu la bande passante, et de gérer bien sûr le côté de profiter finalement du côté bidirectionnel du NDI avec toutes les fonctionnalités donc proposées, le TOLI, le contrôle, le KVM et l'alpha channel. Donc tout ça, ce qui est intéressant avec Bridge, c'est que quand vous déployez, et je vous invite à venir nous voir puisqu'on a déployé un Bridge sur le stand, on est connecté avec un bureau à Budapest et on a le contrôle du TriCaster de Budapest, on a le contrôle des caméras PTZ du site, au même titre que nos caméras sur notre stand et au même titre que nos TriCasters sur notre stand. C'est-à-dire qu'en mode exploitation, à part la qualité de la vidéo qui évidemment ici sur le stand a été un peu réduite, parce qu'on n'a pas la bande passante, on a à peu près 20 mégas de bande passante sur le stand, donc on a été obligé de réduire la qualité de la vidéo, mais la vidéo est stable, et surtout, ce qui est hyper impressionnant avec Bridge, c'est qu'on peut exploiter les sources de Budapest au même titre que si elles étaient à Paris. Et on a fait un comparatif aussi, on a envoyé la sortie, donc une caméra PTZ du stand, on l'envoie à Budapest, on la traite dans un TriCaster, et on la renvoie à Paris, on fait un picture-in-picture pour mesurer la latence et vous verrez, c'est assez impressionnant.
Eh ben, je pense que voilà, pour en savoir plus, il faudra passer sur le stand de 3D Storm.
Oui, ça sera plus...
Norbert avait commencé à en parler. La 5G, c'est pareil, hein, on parle souvent de cette 5G. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'elle vous est, au moment où on se parle, utile ? Est-ce que vous l'utilisez concrètement ? Qui veut parler parmi les prestataires, peut-être, ceux qui interviennent pour répondre aux besoins des clients?
Alors oui, faut pas oublier le thème de la conférence aujourd'hui, c'est la remote prod à des budgets maîtrisés. Et la problématique avec la 4G, on connaît les solutions d'agrégation. Il y en a qui sont présentées ici au Satis avec LiveView, on connaît tous AviWest. Le souci, si je puis dire, de ces solutions, c'est qu'elles sont onéreuses. On parle de dizaines de milliers d'euros par kit, etc. Donc aujourd'hui, nous, la 5G, oui, clairement, elle nous permet, à partir de solutions basiques, monosim, d'avoir des bandes passantes qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. On présente depuis tout à l'heure des solutions basées sur de la qualité à 150 mégabits, etc. Bon, bien évidemment, quand on est sur de la 4G et de la 5G, c'est un peu exclu. On passe sur des choses beaucoup plus compressées, des débits qui sont beaucoup plus compressés, entre 5 et 10 mégabits, entre guillemets, si je puis dire, par source. Voilà. Nous, la 5G, par exemple, dans notre cas de figure à nous, elle va nous permettre d'augmenter le nombre de sources qu'on va pouvoir faire remonter en remote prod, tout en s'affranchissant d'outils qui sont extrêmement onéreux, dans le cas de figure qui est le nôtre, 100% digital, etc. Bien évidemment, les solutions AviWest sont extrêmement pertinentes, mais dans des milieux plus broadcast, si je puis dire.
Oui, Guillaume aussi, on parlait tout à l'heure de l'Iron Man, Jonathan, on parlait de l'Iron Man tout à l'heure, avec ces solutions utilisées en 4G, est-ce qu'aujourd'hui, pour cette même discipline, la 5G est utilisée ou il y a encore les problématiques?
Je ne suis pas assez expert aujourd'hui sur la couverture 5G, je sais que ça se développe beaucoup, comme Multicam, on utilise la 5G... Pour des transmissions un peu uniques dans des modes dans le broadcast aussi, hein, mais c'est vrai que la 4G aujourd'hui, on a encore cette agrégation sur les systèmes TVU AviWest qui nous permettent d'avoir plusieurs réseaux, plusieurs fournisseurs et sécuriser encore la bande passante. Aujourd'hui, avec la 5G et le coût de la 5G aussi, des abonnements 5G font que si on faisait la même chose, on serait un peu plus onéreux. Donc, on est beaucoup 4G encore.
La remote production pour tous, d'un point de vue économique, ça nécessite des utilisateurs toujours plus polyvalents, moins de spécialisation. Qui veut aborder le sujet ?
Évidemment, il va falloir travailler avec des gens qui sont capables de faire des choses très différentes. Donc, tu parlais d'opérateurs seuls sur un point auquel on va livrer des caméras, des valises, des choses comme ça. On va avoir besoin d'opérateurs qui ont l'habitude de travailler sur des technologies qui sont des technologies pures de vidéo, sur des technologies de NDI, sur des choses comme ça. Mais on va aussi avoir besoin de gens qui savent utiliser tout simplement un téléphone, un Zoom, un Teams, etc., pour pouvoir communiquer, avoir des backups aussi avec les clients. Parce qu'il y a une grosse angoisse avec la remote, c'est si ça plante au milieu, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, on a fait un événement, notamment les rencontres du développement durable, où on avait des gens qui étaient dans le monde entier. Et celui qui nous paraissait à peu près le plus sûr, c'était un direct avec Hugo Clément, qui était à Boulogne dans les studios de sa société de production, qui nous avait dit « oui, je serai là ». Et puis finalement, au dernier moment, il nous dit « vous inquiétez pas, j'ai super le dernier téléphone avec la 5G ». Et ça a été catastrophique. On avait un 20 minutes avec lui tout seul, avec son téléphone. Et il a fallu trouver des solutions pour pouvoir faire du backup, donc repasser en 4G et finir avec, par moment, des photos de lui et un son téléphonique. Donc évidemment, la 5G, c'est génial, sauf qu'à un moment, on n'est pas sûr que ça marche partout et il va falloir trouver des solutions, parce que la super qualité d'image, oui, c'est important, mais si vous n'avez pas d'image du tout, c'est encore plus important. Donc ça, il nous faut des opérateurs du coup qui sachent travailler l'image, qui sachent travailler le son, qui sachent travailler les réseaux. Et ça, c'est compliqué à trouver parce que c'est pas un vrai métier, quoi. Quand vous cherchez vraiment des gens, où vous allez les trouver ? Dans les écoles d'audiovisuel, dans les écoles... là, on est sur des événements. Moi, je cherche des gens qui sachent être polyvalent et pouvoir travailler sur un élément ou l'autre.
Et parce qu'on a la confrontation, enfin c'est pas nouveau, hein, mais de l'IP et de l'audiovisuel. Donc c'est deux mondes à l'origine qui étaient quand même assez séparés, qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui. Et ça serait intéressant de savoir un petit peu au niveau des formations comment c'est abordé.
Et avec des grosses problématiques de son, on en a un tout petit peu parlé, parce que le gros décalage des problématiques de décalage son, ça c'est fondamental, parce qu'on est principalement sur des événements où les gens parlent, et donc, bon alors pour l'Ironman c'est moins grave si le son est décalé de quelques images, si on entend le flop un peu décalé avec le bras qui tape dans l'eau, bon. C'est pas terrible, mais c'est gênant. En revanche, quand on a un discours, c'est insupportable. On ne peut pas regarder quelqu'un qui parle en décalé. Et c'est encore pire quand on a de la sonorisation dans une salle. C'est-à-dire que quand on a de l'audience, quand on, à la limite, on n'a personne. Bon, ils ont tous des oreillettes et puis le problème est réglé. Quand on a une audience, il faut sonoriser. Là, on a des problèmes de retour de son dans la salle qui reviennent dans les micros, qui repartent en décalé. Et ça, on a de l'écho. Et là, on ne peut pas diffuser des choses avec l'écho. Donc là, on a besoin d'un G-son vraiment au point pour maîtriser les groupes, les sous-groupes, des micros directionnels ou pas. Et ça, c'est un vrai, véritable
et
défi.
Et pour le coup, c'est le vrai métier de l'ingé-son pur et dur, de savoir gérer l'ensemble de ces aspects.
Bah oui, en audiovisuel, on croyait que l'ingé-son ne servait plus à rien. Bah, en fait, si. Hein. Ça revient.
Guillaume voulait intervenir.
Merci. Oui, bah, tu soulevais à juste titre tout à l'heure, tu parlais effectivement du monde de l'IP, du monde de l'informatique et du monde de l'audiovisuel. Pour moi, aujourd'hui, il est indissociable. J'ai la chance de faire partie du groupe de réflexion pour l'école 3IS, où j'ai quelques alternants qui viennent de là-bas. Et encore aujourd'hui, je suis assez surpris du niveau d'enseignement de l'informatique, en fait, des différents BTS audiovisuels. Et effectivement, j'invite tous ceux qui sont déjà sur le segment à se former là-dessus. Il y a d'ailleurs un stand, j'ai oublié le nom de l'organisme qui dispense des formations juste en face des collègues de CaptaProd, voilà, je suis allé les voir et effectivement ça se développe de plus en plus, ces formations NDI Dante. Mais oui, aujourd'hui c'est indispensable d'avoir des notions de réseau. Aujourd'hui, mes réalisateurs, mes ingénieurs du son, mes cadreurs, je les convie régulièrement chez nous dans nos locaux avec des formateurs réseau, parce que c'est la base. Et sans ça, effectivement, on est un peu à poil sur un certain nombre de sujets purement audiovisuels.
Alors, je vois l'heure qui tourne. Je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro qui doit pouvoir circuler. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question là.
Bonjour à tous, c'était très intéressant, merci. Est-ce que ceux qui sont vraiment penchés sur la question de la remote prod, est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de est-ce que sur le site où ça tourne, je mets un mélangeur, genre un VMix ou un truc comme ça, et finalement je prends le contrôle de cette machine à distance et je ne rapatrie en fait plus que l'image réalisée, versus ce qu'on a peut-être entendu, c'est-à-dire de venir rapatrier en fait les X flux de caméra qui demandent beaucoup plus de bande passante. Voilà, j'aimerais savoir votre avis aujourd'hui. Bon, j'imagine qu'à la fin c'est une histoire de bande passante, mais j'aimerais votre avis.
Qui veut répondre?
Oui, moi je pense qu'il y a. Alors je suis pas un grand expert puisque 3D Storm ne fait pas d'exploitation, mais il y a un point important dans votre question, c'est il faut que les caméras arrivent toutes en même temps en fait. Si vous récupérez à distance, donc il faut s'assurer que la solution technique que vous allez utiliser est capable de gérer finalement le fait que les caméras arrivent toutes synchrones. Donc je pense que c'est la plus grosse difficulté de ce point de vue-là. La prise en main à distance en NDI fonctionne aussi très bien. Voilà. Donc. Alors le SRT, je peux pas vous répondre. Je sais que le NDI est capable de, et notamment grâce à des encodeurs de la marque KiloView, de gérer la norme RP188, je crois que c'est celle-ci, qui permet de garantir la réception d'un timecode et de traiter. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la norme dont je vous parle, c'est une norme de timecode, si je ne m'abuse. Et la solution KiloView, qui va permettre de convertir le SDI avec le timecode embedded en NDI, va respecter cette norme et va permettre de gérer, finalement, l'arrivée des flux de manière synchrone. Mais peut-être je laisse la parole à des experts.
Il n'y a pas de solution miracle. Si on est sur un réseau où il n'y a pas la bande passante, où il y a de la congestion, au bout d'un moment, il n'y a rien qui passe. Donc, quand on parle de remote prod, et c'est une très bonne remarque, je la fais souvent à Fabrice, il faut donner une définition de la remote prod. Il n'y en a pas une. Chacun des intervenants a parlé d'une remote prod très différente dans leur mode d'exploitation par rapport à des contraintes d'une production. Donc, d'avoir un processing sur site et de rapatrier juste le programme et de faire de l'exploitation à distance, c'est un modèle de remote production. Il y a des modèles où on va avoir une équipe sur site, un élément de processing à Budapest, par exemple, et une équipe d'exploitation à Londres. Là, on peut avoir... Où va se passer la captation? Là, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne peut pas la distancier. Il va falloir acquérir l'image et le son et la transformer en information numérique. Où on la traite et où on l'exploite. C'est les trois éléments. Et une fois qu'on a joué avec ces trois briques-là, la technologie vient faire en sorte que tout se lie et tout fonctionne avec la prise en compte des problématiques de latence, les problématiques de bande passante, et au final, parfois, c'est un bon modèle. Il y a des clients qui disent, pour des problématiques de latence et de bande passante, j'ai pas la capacité de rapatrier mes 4, 5, 6 flux, caméra, micro, vers un processing déporté, j'amène le processing sur site, et je l'exploite à distance. Et après, c'est l'équation technologique, exploitation et opérationnelle pour mettre tout ça en œuvre, et c'est là aussi le rôle des constructeurs. On est rentré dans le cœur de certaines technologies, mais c'est que la mise en œuvre de cette technologie vis-à-vis des problématiques de compétences soit aussi simplifiée. On ne va plus rentrer dans la ligne de commande, la configuration d'adresse IP, quel est mon masque de sous-réseau, etc. Ça devient un cauchemar. Donc le SRT, le NDI sont des boîtes à outils qui, une fois qu'on établit la connexion, doivent être mises en œuvre de manière beaucoup plus simple.
Pour répondre à votre première question, qui est est-ce qu'on se pose la question, c'est qu'avec chaque demande, chaque client, on se pose cette question, c'est à quel niveau de sécurité aussi on a besoin de travailler. On laisse le matériel on-site si on se dit que la fibre, la connectivité tombe. On a toujours quelqu'un sur place qui peut prendre le relais sur une commute, sur une transmission, enfin... Donc la question se pose vraiment à la base, et après, comme disait Norbert, c'est toutes les questions suivantes, c'est est-ce qu'on a le débit, est-ce qu'on a les personnes à distance, enfin, mais la question, c'est une question supplémentaire aujourd'hui qu'on se pose avec les productions sur qu'est-ce qu'on va faire sur site et en remote. Donc il n'y a pas une seule unique remote production aujourd'hui.
C'est une question qui est très intéressante parce qu'on se l'est posée justement sur des problématiques d'événementiel et notamment sur des événementiels multisites pour des entreprises où on se rend compte que une entreprise qui a des équipes en Espagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France ou là particulièrement en ce moment en Asie, puisqu'il est toujours compliqué d'aller en Chine notamment. Donc quand on parle avec des constructeurs ou des équipementiers automobiles, ils ont une vraie problématique, c'est de déplacer leurs équipes. En revanche, eux, ils ont envie quand même de faire des événements locaux. Donc il nous est arrivé de travailler sur des événements locaux pour des constructeurs, où ils font un événement, par exemple, en Chine. Il y a un événement qui se fait en France. Et là, effectivement, on a deux équipes de réalisation qui vont pouvoir réaliser même à un moment sur place. Et puis, on va pouvoir récupérer l'un des flux à distance et le retravailler. Alors ça, c'est inspiré des technologies qui ont été mises en place pour la télé-réalité au départ, puisque ça se faisait ici, pas loin d'ici. Les gens qui ont travaillé sur des choses comme le loft au départ connaissent très bien ça, où il y avait une réalisation dans le loft avec des gens qui réalisaient, et puis la pré-réalisation est envoyée directement sur le site du live du samedi soir ou du vendredi soir, je ne sais plus quand c'était, et puis on récupère une pré-réalisation. Donc ça permet effectivement de dimensionner son événement et de multiplier des événements à distance. Et puis ça permet donc ça, c'est, il n'y a pas donc du coup que des problématiques techniques, il y a aussi des problèmes tout simplement de mise en événement pour les entreprises.
Alors je ne sais pas s'il y avait une autre question, on va devoir bientôt passer la main. Il y aura une autre conférence dans quelques minutes, toujours sur la remote, mais cette fois sous l'aspect production télévision, le sport pardon, à la télévision prochainement tout en remote. Donc il y aura d'autres sujets qui seront abordés, et je rebondis sur ce que tu disais notamment Norbert, sur la différence, les différents niveaux des remote production. On parlera notamment d'habillage, on n'en a pas trop parlé, même si l'habillage c'est toujours quelque chose d'important, quel que soit le niveau de production, est toujours une vraie problématique, de moins en moins j'espère grâce aux outils. Est-ce qu'il y avait une dernière question avant qu'on rende le micro? Est-ce que vous aviez envie peut-être de dire une dernière chose, quelque chose qui n'a pas été abordé? Ah, il y a une main qui s'est levée.
Pardon. Oui. Bonjour, vous parliez beaucoup de 4G, 5G. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les satellites orbite basse du style Starlink qui est une bonne alternative aussi au niveau, en tout cas, rapport qualité-prix et bande passante?
Alors, qui a quelque chose à dire sur le sujet?
Alors, mes collègues américains diraient oui, oui, oui et oui, parce qu'aux États-Unis, il y a une vraie disponibilité de couverture au niveau Starlink. Le 4G, 5G, Starlink, du Wi-Fi dans une salle, etc., tout est qu'une question de couverture, et après, à quel coût on accède à cette couverture. C'est comme le satellite classique, on a de la couverture un peu partout, par contre, ça coûte très cher. Donc oui, tout ça sont des alternatives qui sont valables. La couverture Starlink, elle dépend de la géographie, elle dépend le forfait, enfin, dépend de la géographie. On a accès au ciel un peu partout.
C'est tout de même 250 € pour avoir accès à 20 mégabits seconde. Mm-hmm. On peut déjà faire pas mal de choses.
On peut faire pas mal de choses, donc c'est une alternative qui est tout à fait crédible. Après, Starlink récemment a revu son business model de data illimitée pour venir le caper aux États-Unis. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Encore une fois, la connectivité est essentielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail sur la connectivité avec des solutions comme Starlink, comme la 4G, la 5G. Tout est qu'une question de couverture et d'accessibilité économique, mais oui, c'est une vraie alternative. Beaucoup plus forte aux États-Unis aujourd'hui qu'en Europe, mais ça a tendance à se développer également.
Eh ben, on va rester là. Merci beaucoup, messieurs. Bon satis à tout le monde. Merci d'être venu assister à cette conférence.